DW. Pulsation. La Silicon Savannah est le fleuron de l'industrie informatique kényane. Des créateurs y développent des applications en masse dont certaines connaissent un succès international, comme nous allons le voir. Et puis dans Coup de projecteur en fin d'émission, le prix de la paix des libraires allemands a été remis à la Zimbabwéenne Tsitsi Dangaremga et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Feu Peter Tosh, l'un des grands noms du reggae jamaïcain. Voilà pour le programme, on commence par le mot du jour, le cancer du sein. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Tous les ans, le 19 octobre, on célèbre la Journée mondiale du cancer du sein. Pourquoi consacrer une journée de sensibilisation à cette maladie alors qu'il existe déjà la journée contre le cancer le 4 février ? Eh bien parce que le cancer du sein est l'un des cancers les plus répandus et que le mois d'octobre est par ailleurs traditionnellement dédié à un ensemble d'événements répartis sur sa durée et regroupés sous le nom d'Octobre Rose. C'est l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation et de réunir des fonds pour aider les chercheurs et les soignants. De grands événements marquent les différentes campagnes d'Octobre Rose, certains très spectaculaires comme par exemple l'illumination en rose de la Tour Eiffel à Paris, d'autres très populaire comme la Race for the Cure, une course à pied organisée par une initiative belge pour soutenir les personnes touchées par le cancer du sein. Cette forme de cancer est répandue partout dans le monde et notamment en Afrique subsaharienne où il serait le deuxième plus fréquent après le cancer du col de l'utérus. Il surviendrait dans cette partie du monde chez des femmes jeunes d'âge moyen entre 42 et 53 ans selon les régions. Mais les connaissances actuelles sur le cancer du sein chez la femme en Afrique subsaharienne restent insuffisantes et mal documentées. Cependant, il est probable que la situation s'aggrave en raison notamment de l'évolution vers un monde de vie plus urbain. Illustration musicale avec le chanteur belge rwandais Stromae dans Cancer, une chanson qui bien sûr parle du cancer.
Et tu aimes les petits enfants. Décidément, rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu ? Tu m'étonnes, mais tu m'aides.
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeunes et Culture, dans lequel nous allons maintenant parler de nouvelles technologies numériques en Afrique. Direction le Kenya, un précurseur en la matière.
If it works in Africa, it'll work anywhere.
Si cela fonctionne en Afrique, cela fonctionnera partout, dit le slogan délivré dans ce spot publicitaire. Il reflète la devise des experts du numérique d'Ushahidi. L'entreprise fait partie de ce que l'on appelle ici la Silicon Savannah. Autrement dit, le centre de développement technologique de Nairobi, la capitale du Kenya, par allusion à la Silicon Valley de Californie. Les jeunes créateurs kényans sont rassemblés ici et s'emploient à développer des technologies et des applications pour le continent africain et le reste du monde, explique Juliana Rotich, membre fondateur d'Ushahidi.
When you think about the Silicon Savannah, we are...
Ici, à la Silicon Savannah, nous devons faire avec ce que nous avons. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais c'est une base suffisante pour construire quelque chose.
Whatever resources we have and we move on with that.
Cette développeuse spécialiste des technologies informatiques de 44 ans a remporté de nombreux prix, dont le Deutsche Africa Prize, le prix allemand pour l'Afrique, en 2019, car c'est elle qui a créé une application qui permet de mettre en relation des personnes en situation de catastrophe. L'idée est née lorsque la violence a éclaté après des élections au Kenya en 2008. L'application a été mise en place pour permettre de recueillir des rapports de témoins, d'où le nom d'Ushahidi qui en swahili signifie « témoignage ». En 2010, l'application a été beaucoup utilisée après le tremblement de terre en Haïti. Juliana Rotich.
C'était la première utilisation à grande échelle d'Ushahidi dans une situation de crise humanitaire. Les sauveteurs ont reçu les premières informations par le biais de l'application avant de se rendre dans la zone sinistrée et de pouvoir évaluer eux-mêmes la situation.
Ushahidi utilise le concept de crowdsourcing, c'est-à-dire la production participative ouverte au plus grand nombre au service de la cartographie sociale. La plateforme collecte des témoignages envoyés par courrier électronique et SMS et les place sur une carte accessible en ligne. Pour cela, elle passe par Swift River, une plateforme libre et open source née du besoin de maîtriser l'afflux de données en temps de crise. Elle permet en effet de filtrer et vérifier en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, le service de messagerie SMS, les courriels et d'autres moyens de communication électroniques. Ce logiciel est destiné aux médias, aux organismes de secours et d'urgence et autres institutions devant trier des données en fonction de leur fiabilité. Où y a-t-il un manque d'eau ? Où les écoles sont-elles détruites ? Où les blessés doivent-ils être soignés ? Ce sont les questions auxquelles Ushahidi est en mesure de répondre. Depuis sa naissance, l'application a été utilisée dans plus de 160 pays et est également mise en œuvre par les Nations Unies. Mais Ushahidi n'est qu'un des nombreux exemples de réussite de Silicon Savannah. Le Kenya a montré très tôt qu'il était en avance en matière de développement d'applications sur le reste du continent. Le système de paiement M-Pesa, qui signifie « argent mobile » en français, a débuté ici avant de se répandre dans le monde entier.
M-Pesa is all over. It's country-wide.
M-Pesa est présent partout au Kenya, dans tout le pays. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un numéro de l'opérateur Safaricom, d'un téléphone portable et d'une carte d'identité.
C'est ainsi que décrit le système l'une des nombreuses employées des kiosques où on peut retirer de l'argent à tous les coins de rue. Le montant est envoyé via une application et arrive chez le destinataire par SMS. Le géant kényan de la téléphonie mobile, Safaricom, a mis au point ce système et gagne des millions grâce à lui. Aujourd'hui, M-Pesa peut être utilisé pour payer à la caisse du supermarché ou pour acheter son ticket à l'entrée d'un concert ou encore son ticket au cinéma. Le concept a fait mouche, affirme Nekeza Were, qui dirige un réseau réunissant des développeurs de plusieurs pays africains.
La plupart des gens aujourd'hui sont intéressés par l'aspect pratique et le confort. Est-ce que je peux payer des factures depuis mon bureau ? Est-ce que je peux faire transporter mes marchandises d'une ville à l'autre d'un simple clic sur mon clavier ? S'il y a une application pour ça, je suis tout de suite partante.
Les applications développées dans la Silicon Savannah se déclinent dans de nombreux domaines. Ainsi, certaines sont aussi destinées à aider les agriculteurs des régions reculées à être informés des cours moyens de la vente de produits agricoles comme le maïs ou les tomates. De cette façon, les intermédiaires ne peuvent plus les escroquer. Le vétérinaire est également en mesure de diagnostiquer à distance de quoi souffre la chèvre malade via une application spéciale. Des idées comme celles-ci sont lancées en masse depuis la Silicon Savannah. Certaines sont couronnées de succès, d'autres disparaissent à nouveau dans l'oubli. Mais c'est aussi une devise du secteur. On ne peut pas savoir ce qui fonctionne vraiment avant de l'avoir essayé. Till we try, comme le dit la chanson. Merci à Antje Dickens qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Projecteur.
Un coup de projecteur que nous commençons par le couronnement de Tsitsi Dangaremga, la première femme noire à recevoir le prix de la paix des libraires allemands. Il lui a été remis dans le cadre de la foire du livre de Francfort à l'église Saint-Paul. L'écrivaine zimbabwéenne, connue notamment pour sa trilogie de romans sur une adolescente et sa lutte pour l'autodétermination féminine, écrite entre 1988 et 2018, est également cinéaste. Formée à l'Académie allemande du cinéma et de la télévision de Berlin et docteur en études africaines à l'université berlinoise Humboldt. Aujourd'hui, elle se réjouit du prix doté de 25 000 euros et de voir que l'Afrique continue son ascension littéraire à l'international. Une progression nécessaire à ses yeux.
Je suis très heureuse de voir l'essor de la littérature africaine sur tout le continent. Je pense que c'est absolument merveilleux, mais j'ai le sentiment qu'il y a des forces économiques et des forces idéologiques à l'œuvre pour orienter le narratif concernant l'Afrique dans une certaine direction. Et j'ai l'impression que nous n'avons pas assez de variété dans le discours pour pouvoir refléter l'étendue de notre expérience et de notre humanité. C'est donc quelque chose qui me préoccupe.
Tsitsi Dangaremga est impliquée depuis de nombreuses années en tant que militante du mouvement des femmes et pour le changement politique au Zimbabwe, ce qui lui vaut des déboires avec la justice de son pays. Le 15 décembre aura lieu sa prochaine audience pour avoir appelé à la mobilisation pour une manifestation anticorruption en juillet 2020. Legalize it, légalisez-le en français. Une chanson qui reflète le cheval de bataille de Peter Tosh, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance. Cette chanson, qui fait l'apologie du cannabis, a été interdite de diffusion à sa sortie en Jamaïque en 1976. Elle donne aussi le titre à l'album culte du musicien de reggae qui obtiendra un Grammy posthume en 1988. Winston Herbert McIntosh est donc né le 19 octobre en 1944. Dès l'âge de 10 ans, il apprend le piano grâce à sa tante, puis la guitare en autodidacte. Et à 15 ans, il quitte la campagne jamaïcaine pour la capitale Kingston, où il rencontre dans le ghetto de Trenchtown Bob Marley et Neville Livingstone, alias Bunny Wailer, avec qui il forme le groupe des Wailers. La suite, on la connaît, succès planétaire du reggae et du groupe dont il se sépare en 1973. Sa carrière solo débute donc avec Legalize It et se terminera brutalement après 8 albums le 11 septembre 1987 lorsqu'il est assassiné par balle à son domicile dans des circonstances mystérieuses. On parle de règlement de compte sur fond de trafic de cannabis. Il avait 42 ans. Get up, stand up. On se quitte avec Peter Tosh et sa version de Get Up, Stand Up, un titre qu'il a écrit avec Bob Marley. Merci de votre attention. Pour accéder au podcast de cette émission, rendez-vous sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programmes sur la DW. Salut. Get up, stand up. Don't give up the fight. You preach a man, don't tell me. Heaven is under the what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light.